La théorie du persécuteur bienveillant. Dans le monde complexe de la thérapie, où les vérités d'aujourd'hui résonnent comme les erreurs de demain, de nouvelles approches émergent régulièrement, suscitant des débats passionnés. La plus récente de ces découvertes de la psychologie moderne est sans aucun doute la théorie du persécuteur bienveillant. Nous devons cette thèse à un psychiatre ivoirien, le docteur Iris Namprak, lauréat du Distinguished Scientific Contribution to Psychology Award de l'APA. Sa théorie du triangle de Karpman inversé est en train de chambouler la thérapie traditionnelle. Dans ses deux ouvrages de référence, « Comment être un super thérapeute sans rien connaître à la psychologie » et « Au-delà de la victime, libérer le potentiel caché de la persécution », le docteur Namprak a exploré en profondeur les bienfaits méconnus et les ressources inestimables de maintenir les clients dans leur rôle de victime consentante, en les encourageant à embrasser leur part sombre et à transformer leur énergie destructive en un moteur de croissance personnelle. Mais sa plus grande innovation a été d'inviter les clients et leurs thérapeutes à construire ensemble, à partir de leurs liens de dépendance affective, des liens de codépendance permanents. Dans cette relation thérapeutique hors du commun, le thérapeute agit en persécuteur bienveillant, le patient en victime sournoise et tous deux en sauveurs réciproques. La situation problématique devient alors un défi à surmonter ensemble, chacun se transformant alternativement en héros et libérant ainsi l'autre de toute responsabilité. Les résultats obtenus sont sans appel. Selon une étude menée en double aveugle auprès de plus de 4000 patients et thérapeutes ivoiriens qui ont généreusement expérimenté cette approche jusqu'à leur décès. Malheureusement, les résultats de cette étude, publiée en braille, n'ont pas encore été traduits en langue des signes, probablement parce que les aveugles ivoiriens ne braillent pas et les signes non plus. Alors, la thérapie du persécuteur bienveillant, c'est quoi? Le principe est simple. Il consiste pour le thérapeute à adopter un rôle plus actif et engagé dans la vie de ses patients. Il peut par exemple les accompagner chez eux pour faire le ménage, les courses, garder leurs enfants ou en faire avec eux. Alors oui, d'anciennes théories issues de la psychanalyse ont mis en garde contre les dérives des relations amoureuses entre un client et son thérapeute. Mais les recherches du docteur Namprak ont au contraire révélé que répondre favorablement aux demandes de relations sexuelles de tous ses clients et se montrer tel que l'on est, peut les aider à cesser d'idéaliser leur thérapeute. De nombreux clients ont ainsi témoigné que découvrir que leur thérapeute sentait la yoli, le chien mouillé ou ronflait bruyamment après l'amour, les avait aidés à se réconcilier avec les fantômes de leurs parents. Dans d'autres cas, cela a aussi créé une dynamique de dépendance plaisante, qui a renforcé le lien thérapeutique. C'est un avantage pour les clients, mais aussi pour la pérennisation du métier. Personne ne reproche aux consommateurs d'être dépendants de leur frigo ou de leur chauffage simplement parce qu'ils payent leurs factures tous les mois. Voici quelques conseils prodigués par le docteur Namprak dans son dernier ouvrage « Repenser la psychothérapie, la révolution de la persécution bienveillante ». Malheureusement, l'ouvrage est en rupture de stock pour le moment. Mais voici donc quelques conseils pour devenir un thérapeute persécuteur bienveillant. Premièrement, débarque à l'improviste un week-end à 3h du matin chez tes clients pour vérifier qu'ils dorment bien. Beaucoup d'entre eux te parlent de leurs rêves profonds alors qu'ils ne dorment même pas le dimanche. Deuxièmement, n'hésite pas à les exposer délibérément à des situations difficiles. Par exemple, amène des serpents ou des araignées à ton client anxieux ou phobique. La surprise transforme souvent les plus grandes peurs en traumatismes et comme qui peut le plus peut le moins, ton client sera convaincu après avoir surmonté le plus dur qu'il peut affronter le plus mou. Troisième point, ne respecte jamais tes horaires de séance. Si tes clients arrivent à l'heure, dis-leur qu'ils se sont trompés de jour. Ta mauvaise foi est un atout thérapeutique indispensable. Quatrième point, confonds régulièrement les noms de tes clients. C'est efficace pour les faire sortir de leur ego personnel et de leur problématique d'attachement. Cinquième point, évite les reformulations à l'identique. Elles ont des résultats souvent désastreux sur les patients et sur les thérapeutes. Rappelle-toi que tu n'es pas un perroquet. Privilégie les déformulations. Si un client te dit « je souhaite arrêter de fumer », réponds-lui « tu souhaites continuer à fumer ». Cinquième point, fais-toi toujours payer en début de séance. Tu pourras ainsi tester la mémoire de ton client en lui demandant de payer une seconde fois à la fin. S'il ne se souvient pas, tant mieux. Et cela confirmera qu'il faut continuer le travail avec lui. S'il refuse, n'hésite pas à le menacer de tout raconter à sa famille. Sixième point, quand ton client est trop bavard, installe-toi avec lui dans un parc et commence par lui couper l'herbe sous le pied, en parlant de toi, de tes problèmes de couple et de prostate. Si tu es à court de sujet, raconte-lui tes difficultés, celles que tu as rencontrées par exemple avec ton précédent client qui était très résistant. Montre-toi perdu, désemparé et demande-lui conseil en le suppliant, parce qu'il est ton dernier espoir. Le client, face à ta détresse, finira par oublier son problème. Bien que la thérapie du persécuteur bienveillant puisse encore être contestée, et que pour certains elle semble absurde à première vue, elle ne l'est sans doute pas plus que la vie elle-même, qui est aussi parfois merveilleuse.